Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Danielle Simonet, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Danielle Simonet, que vous inspire la guerre en Ukraine ? Est-ce que la France et l'Union européenne ont pris les bonnes décisions pour stopper cette guerre, notamment les sanctions économiques contre la Russie ?
Alors, d'abord, on est évidemment extrêmement préoccupé par la situation, hein, donc on réaffirme notre condamnation de l'attaque par la Russie de Poutine de l'Ukraine et les crimes de guerre qui ont été révélés par Amnesty International. La situation est extrêmement préoccupante. Il faut saluer le courage de la population ukrainienne, mais aussi le courage de la population russe qui manifeste contre la décision de guerre dans leur propre pays. Et moi qui suis féministe, je voulais aussi signaler vraiment le courage du mouvement féministe russe qui est très impliqué en faveur de la paix. Maintenant, face à cette situation-là, il faut prendre conscience que tout doit être fait pour la paix. Donc il faut exiger à la fois un cessez-le-feu et un retrait des forces russes de l'Ukraine, et c'est condition sine qua non pour engager une véritable diplomatie. Et là, j'aurais plutôt tendance à penser que on n'est pas encore à la hauteur. Parce que vous avez vu que la France, elle reste... Parce qu'elle reste dans le cadre de l'OTAN et du commandement intégré de l'OTAN, donc elle reste dans une stratégie d'alignement vis-à-vis des États-Unis, et on voit bien que c'est la Turquie et Israël qui, du coup, essayent de jouer un rôle diplomatique entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est essentiel, je trouve, que la France puisse retrouver son indépendance et son non-alignement, non pas pour une position de neutralité, hein, mais au contraire pour pouvoir peser sur un cadre diplomatique, et notamment cette diplomatie devrait se faire dans le cadre de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Il faut vraiment tout faire. Alors, concernant la question des sanctions économiques, il faut se rendre compte que les sanctions économiques, on a vu sur le cas de l'Iran ou on a vu sur le cas de Cuba, c'est les populations qui payent un très lourd tribut pour finalement quelque chose d'assez inefficace au niveau géostratégique. Donc là, il y a une décision qui pourrait être prise de manière immédiate, c'est de réquisitionner l'ensemble des avoirs des oligarques russes. Parce que si on tape à la tête du régime oligarchique, là, on peut faire pression sur Poutine et continuer son isolement total et l'attaquer par ce qui est le nerf, quoi, la question financière des oligarques russes.
Danielle Simonet, est-ce qu'avec cette guerre en Ukraine, il y a un risque qu'on ne parle plus des sujets importants de cette élection présidentielle ? C'est dans un mois le premier tour, la santé, le travail, l'égalité femmes-hommes, le handicap, le climat ?
Bien sûr, et d'ailleurs, c'est un véritable scandale que Emmanuel Macron, dorénavant candidat, ne veuille pas véritablement de confrontation, de débat, que ce soit sur son bilan, que ce soit sur son projet. Or, là, l'enjeu de la présidentielle en France, c'est d'en faire, par exemple, un référendum sur la question des retraites. On a un président de la République qui avait échoué à mettre en place sa réforme de casse du système de retraite par répartition. Si vous vous souvenez bien, c'était juste avant le premier confinement, où il y avait une mobilisation, mais historique, comme notre pays n'en avait pas connu depuis 50 ans. Et là, Macron veut imposer la retraite à 65 ans. Et on voit bien que ce soit Pécresse ou que ce soit Zemmour ou Le Pen, ils sont tous pour l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Or, il faut savoir que les salariés les plus pauvres ont une espérance de vie à 62 ans, qui est l'âge de départ à la retraite actuelle. Ça veut dire que les salariés, les travailleurs les plus pauvres, aujourd'hui, ne peuvent même pas espérer pouvoir profiter de leur retraite, d'avoir ce temps de répit. Et pour nous, vraiment, la question de la retraite à 60 ans est une question extrêmement importante. Il faut revenir à la retraite à 60 ans et il faut revaloriser les pensions qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC.
Alors, tous les sondages laissent entendre qu'Emmanuel Macron sera réélu président de la République, mais les sondages montrent aussi que Jean-Luc Mélenchon pourrait être opposé au président sortant au second tour de l'élection présidentielle. Pour vous, ce serait l'affiche idéale au soir du 10 avril ?
On est face vraiment à une situation décisive, un moment historique dans notre pays. Il faut que chacune et chacun comprenne bien, si on a un deuxième tour, Macron-Le Pen. Ça veut dire que tout le débat va être polarisé sur la question identitaire, sur la question qui finalement encourage le racisme dans notre pays, la stigmatisation de celles et ceux qui sont de confession musulmane réelle ou supposée. On va être dans cette ambiance-là pendant que le rouleau compresseur néolibéral continuera plus encore pour casser nos droits, comme l'avait déjà bien fait Macron en s'attaquant au Code du travail, en s'attaquant à la réforme de l'assurance chômage. Or, si on a un deuxième tour, Macron, Jean-Luc Mélenchon, là, à ce moment-là, les débats centraux, celui par exemple de la bifurcation écologique, il y avait une grande marche pour le climat samedi, la semaine dernière, il y avait le rapport du GIEC, très peu en ont parlé. Or, pour nous, c'est quelque chose de majeur qui exige qu'on repense complètement notre politique en fonction de l'urgence écologique et de la question sociale, parce que les deux sont liés. On sait, avec le rapport de l'Oxfam, qui le confirme, que ce sont la poignée des plus riches qui polluent beaucoup plus. Et donc, il faut à la fois, enfin, faire une politique de l'emploi en fonction de la satisfaction des besoins, et faire une politique de planification écologique qui, en même temps, soit une politique de justice sociale. Et ça va être l'enjeu de ce deuxième tour. Et un deuxième tour Macron-Mélenchon, je pense que Jean-Luc Mélenchon a toutes ses chances. Parce qu'il peut y avoir une mobilisation très forte du peuple pour se dire, mais là, on a un destin historique. Avec Jean-Luc Mélenchon, on peut faire la 6e République par la convocation de la Constituante. On peut enfin faire une vraie révolution fiscale qui ferait que 90% de la population aurait un niveau de vie qui progresserait pendant que les plus riches, eux, seront enfin mis à contribution.
Daniel Simonet, vous parlez de justice sociale. Jean-Luc Mélenchon veut instaurer l'état d'urgence sociale.
Tout à fait.
En quoi son élection permettrait-elle concrètement d'améliorer la vie des Français les plus modestes, ceux qui ont du mal à se loger, ceux qui ont des bas salaires, ceux qui ont du mal à être soignés, même pour certains à manger à leur faim? Je pense aussi aux personnes que vous défendez, notamment ceux qui ont des métiers ubérisés.
Alors moi, je vais vous prendre quelques mesures phares, par exemple. On va instaurer la garantie dignité, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus une seule personne en dessous du seuil de pauvreté. Puisque le seuil de pauvreté, il est à 1063 euros, eh bien on instaurera une allocation à 1063 euros pour que plus personne soit en dessous du seuil de pauvreté. Et vous savez que c'est aussi une majorité de femmes qui sont dans cette situation-là. On va augmenter le SMIC à 1400 euros. Donc 1400 euros, là encore, c'est plus de 60% des femmes qui sont rémunérées au SMIC. Et ça va avoir un effet, positif en chaîne. Quand vous augmentez le SMIC et que vous augmentez, vous dégelez le point d'indice et que vous améliorez et vous revalorisez les métiers, notamment du soin, les métiers du lien, toutes les essentielles, toutes ces femmes qui sont qu'on a saluées pendant le confinement, qui sont caissières, qui sont aides à domicile, qui sont AESH, qui sont cantinières, qui sont ASEM. Bon. Et ben de fait, vous créez dans la société un cercle vertueux, parce que du coup ce sont des personnes qui vont aussi consommer et qui vont permettre aussi d'augmenter le carnet de commandes de plein d'entreprises. L'augmentation des salaires permettra aussi une relance. Donc ça, c'est des mesures fortes. J'ajouterai aussi l'allocation d'autonomie pour les jeunes en formation, 1063 euros également, pour que plus aucun jeune soit obligé de travailler pour financer ses études. Et puis, je dirais aussi qu'on instaure la sécurité sociale à 100%. Vous savez qu'énormément de Françaises et de Françaises renoncent aux soins faute de moyens. Et la sécurité sociale, pour que tout soit remboursé à 100% et qu'on intègre les mutuelles dans la sécurité sociale, est une mesure en faveur de la santé extrêmement importante. Et bien évidemment, là, il faut mettre le paquet dans les services publics. Le gouvernement Macron a cassé l'hôpital public, a cassé l'école. Il faut reconstruire nos services publics et donc stopper la suppression des lits et tout, au contraire, reconstruire l'hôpital public en fonction des besoins.
Alors Jean-Luc Mélenchon a chiffré son programme. On a véritablement les moyens de financer toutes ces mesures de justice sociale. Il faudra bien prendre l'argent quelque part. On le
Tout
prendra
à
qui?
Alors, on a fait toute une journée ce samedi sur le chiffrage du programme. Lorsque nous faisons une vraie révolution fiscale en restaurant l'ISF, en faisant en sorte que les contributions des dividendes des actionnaires soient véritablement mis à contribution, en arrêtant tous les cadeaux au 440, en faisant une révolution fiscale qui instaure 15 tranches d'imposition, ce qui permettra en fait à tous ceux qui touchent en dessous de 4 000 euros de voir les impôts baisser, et par contre tous ceux qui sont au-dessus de 4000 euros, de contribuer plus, vous avez la possibilité donc d'avoir une politique en termes de finances publiques qui permet de financer cela. Et ce faisant, par ailleurs, quand vous augmentez les salaires, vous augmentez aussi les cotisations sociales. Donc vous augmentez la capacité du système de protection sociale de pouvoir assumer les efforts de solidarité. Et en même temps, vous permettez de relancer le carnet de commandes des petites entreprises, des petits commerçants, et d'avoir donc ce cercle vertueux au niveau économique, avec évidemment l'enjeu de l'urgence écologique.
Daniel Simonet, très peu de candidats parlent de politique de la ville ou des habitants des quartiers populaires. Les habitants de ces quartiers seront-ils les premiers bénéficiaires des politiques publiques mises en œuvre par Jean-Luc Mélenchon s'il est élu ?
Oui, parce que déjà, sur la question sociale que je viens de développer, toutes ces mesures-là, ce sont les femmes et les hommes des quartiers populaires qui seront les premiers bénéficiaires. Quand vous voyez ces jeunes qui arrivent enfin à obtenir le bac, mais qui, avec Parcoursup, n'ont même pas de place pour l'enseignement supérieur et la recherche, là, au moins, on va enfin créer cela. Mais aussi, en arrêtant les politiques d'austérité vis-à-vis des collectivités locales, et en décrétant que la question du logement est une question centrale, la question du droit au logement, qu'on veut inscrire dans la Constitution, et permettre véritablement de repartir sur la construction de logements sociaux, sur l'encadrement à la baisse des loyers et sur la réhabilitation thermique des logements sociaux, c'est aussi le redéveloppement, le redéploiement des services publics, c'est bien dans les quartiers populaires qui soient urbains, hein, ce qu'on appelle les quartiers de banlieue, bien souvent délaissés, abandonnés, mais qu'il s'agisse aussi des quartiers populaires ruraux, dont on parle toujours insuffisamment, et qui subissent des déserts hospitaliers, mais de l'ensemble des services publics. Donc le redéploiement des services publics sur l'ensemble des territoires de la République permettra de lutter contre cela. Mais c'est vrai que nous avons aussi une volonté d'agir contre les discriminations. La question du contrôle au faciès, c'est insupportable. Il faut absolument faire une refonte de la police, du sous-sol au plafond, je dirais, du sous-sol au grenier, pour qu'il y ait une véritable formation et qu'il n'y ait plus ces politiques de contrôle aux faciès et de discrimination.
Daniel Simonet, vous êtes aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de son combat, notamment pour une 6e République. Une marche est prévue dimanche à 14h à Paris pour réclamer le passage à la 6e République. À quoi ressembleraient les institutions françaises si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République ?
Alors, elles ressembleront à ce que le peuple voudra qu'elles ressemblent. C'est-à-dire que l'élection de Jean-Luc Mélenchon va pas déboucher sur un petit cénacle qui va écrire la constitution de la 6e République. Elle va déboucher au contraire sur la convocation de l'Assemblée constituante. Ce processus constituant, ça veut dire que des citoyens et les citoyennes vont élire leurs membres de l'Assemblée constituante, qui ne pourront pas d'ailleurs être des gens qui ont déjà un mandat. Hein, ça c'est important pour nous, pour que ce soit vraiment une Assemblée qui soit indépendante des assemblées de la 5e qui fonctionnent, pour qu'il n'y ait pas le process de défense des acquis, je dirais. Et cette assemblée constituante va définir les nouvelles règles du jeu. Après, je vais vous dire, moi, ce que je souhaite, c'est je souhaite qu'on en finisse avec la monarchie présidentielle, je souhaite que l'on s'interroge et qu'on instaure des contre-pouvoirs citoyens à tous les niveaux, hein, que ce soit de la commune à l'Assemblée nationale. Je souhaite aussi que soient posées d'autres questions, comme la question, par exemple, de l'indépendance des médias, qui nous tiennent à cœur. Pour une démocratie, il faut absolument arrêter les systèmes médiatiques à la Bolloré, d'énormes concentrations d'entreprises privées sur la question des médias, parce que c'est ce qui fragilise énormément une démocratie et qui devient instrumentalisée par une oligarchie. Mais c'est aussi une constitution qui va pouvoir refonder le peuple en instaurant des nouveaux droits humains. Par exemple, on aimerait inscrire dans la constitution le droit à l'avortement, le droit de mourir dans la dignité, le libre choix du genre, libre et gratuit à l'état civil. Bon, ces questions-là fondamentales nous semblent importantes.
L'écart se creuse entre Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats de gauche. Pour vous, quand on est socialiste, écologiste ou communiste, le vote utile, c'est le vote Mélenchon, même quand on peut avoir des doutes sur la personnalité du candidat, par exemple ?
Moi, j'invite tous celles et ceux qui nous écoutent à regarder le programme. Je souhaite que ce soit un vote d'adhésion. Et d'ailleurs, on voit bien que l'ensemble des mesures du programme L'Avenir en Commun, elles avaient été testées dès le mois de juillet dernier. Et on se rendait compte que chacune de nos mesures avait entre 60 et 90% d'adhésion dans la population française. Et vous voyez bien que nous avons aussi une belle équipe de parlementaires à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, qui n'ont cessé de se battre de manière très humble, mais très déterminée. Là, on a une chance historique. Le seul bulletin de vote qui permet justement d'échapper au binôme, au duo, plutôt qu'un duel, hein, Macron-Le Pen, eh bien, c'est le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on s'évite cela pour qu'enfin le débat démocratique soit possible et qu'on puisse engager une bifurcation à tous les niveaux de la France et de son destin.
Qu'est-ce que vous dites aux gens de gauche qui s'apprêtent à voter pour Emmanuel Macron, qui sont sincèrement de gauche, mais ils ne se voient pas voter pour Jean-Luc Mélenchon ?
Si vous êtes de gauche, vous êtes pour la redistribution des richesses. Si vous êtes de gauche, vous êtes pour la défense du service public. Ne votez pas pour celui qui est totalement convaincu du néolibéralisme et qui a fonctionné comme un président des riches et un président des lobbies depuis le début de ce quinquennat. Sa première mesure à Emmanuel Macron, ça a quand même été de supprimer l'ISF d'un côté et de baisser les APL de l'autre. C'est-à-dire de donner aux plus riches et de faire la poche des plus pauvres. Donc il faut mettre un terme à cette politique qui casse l'ensemble de nos biens communs. Et ce bulletin de vote, quand on est de gauche, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron veut instaurer la retraite à 65 ans. Pour l'instant, on ne connaît pas tout son programme, on n'en connaît qu'une toute petite partie. Qu'est-ce qui attend les Français si Emmanuel Macron est réélu ?
Mais c'est de souffrir 5 ans de plus, pire encore, parce que là il va se lâcher encore plus. Regardez ce qui nous a fait souffrir. La réforme de l'assurance chômage. Vous avez plus d'un chômeur sur deux qui n'a aujourd'hui aucune allocation. Et les autres ont vu leur allocation baisser. Et quand Macron prétend que le nombre de chômeurs a baissé, c'est qu'en fait, il a tellement généralisé la précarité que maintenant, vous avez des contrats de travail à un jour. Vous avez un contrat de travail à un jour, vous sortez des chiffres du chômage. C'est la précarité généralisée. Regardez l'explosion des prix, et qui va être encore plus dure comme conséquence de la situation en Ukraine. Les prix de l'énergie, mais c'est aussi les prix alimentaires. Beaucoup de matières premières explosent. C'est le peuple qui va payer. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons de bloquer les produits de première nécessité, par exemple. Et aussi la question donc énergétique. Ça va changer radicalement, ça, dans le pouvoir d'achat. Parce que aujourd'hui, quand vous avez l'essence qui a passé la barre des 2 euros, enfin, on est dans une situation extrêmement problématique.
Daniel Simonet, dernière question. On a toujours besoin de références historiques. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président le 24 avril, c'est un moment qu'on pourra comparer au 10 mai 1981, au Front populaire ?
Oui, sans doute, un mélange des deux. Vous savez, l'histoire va construire sa nouvelle étape. Hein. Donc, il est difficile de chercher des références temporelles. Les situations sont pas du tout les mêmes. Mais on est vraiment à l'aune d'une bifurcation écologique, une bifurcation historique majeure. Et moi, je suis très inspirée aussi par ce qui se passe notamment au Chili. Ou au Chili, là...
Un jeune président de 36 ans.
Exactement, un jeune président de 36 ans, un processus de constituante mis en place, et enfin un magnifique débouché positif de l'ensemble des mobilisations sociales qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Eh bien, je souhaite ça pour la France le 10 avril prochain. Mais déjà qu'on soit très nombreux à la marche pour la 6e République dimanche, pour redonner de la confiance à toutes et tous et se rendre compte que collectivement, on peut changer notre destin commun. Il n'y a absolument pas de fatalité à avoir un deuxième tour Macron-Le Pen. Au contraire, là, il y a une possibilité. La tortue sagace, comme Jean-Luc Mélenchon se désigne lui-même, progresse.
Merci Daniel Simonet. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement de Paris, oratrice nationale de la France insoumise. Et merci d'avoir été notre première invitée en présentiel depuis 2 ans. Merci.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.